RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, c'est tous les jours, c'est en direct, c'est avec vous, vous avez raté la première heure des GG. Elle est à disposition, il va falloir mettre un peu d'huile dans le pied des micros là, parce que ça vient de couiner.
C'est bien.
Vas-y, recommence un peu.
C'est Jean-Baptiste, c'est pas.
On dirait la guimbarde de Jérôme Marty, tiens.
Donc, la première heure est à disposition sur les podcasts, sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Jean-Baptiste Gébari, Jérôme Marty, Zora Bitton, voilà les grandes gueules du jour. Si nous parlions de travail, au moment où on parle réforme des retraites, avant de partir à la retraite, il faut travailler. Mais pour ça, il faut avoir aussi un peu envie de travailler. Or, l'envie de travailler, ça décline.
RMC, les grandes gueules.
Je ne veux
Vous l'avez vu,
pas
le jeune philosophe insoumis, là.
Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis, je fume.
C'est qui, c'est comment il s'appelait? Pink Martini, c'est ça? C'est gros?
Oui.
Voilà, la valeur travail avec une étude, un sondage IFOP qui montre le rapport des Français au travail aujourd'hui.
Oui, c'est une tendance de fond en fait. On avait déjà parlé ici même, juste après la sortie du confinement, cette période de 2 ans de coronavirus, il y avait effectivement un changement qui s'opérait avec le travail. Et là, c'est confirmé par cette étude qui a été réalisée par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès. Et le retour à la normale, en fait, ça se passe pas bien. C'est-à-dire que les Français, le rapport au travail des Français a changé. C'est un peu « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire qu'on travaille parce qu'on n'a pas le choix, mais si on pouvait faire autre chose, on le ferait. En tout cas, le travail n'est plus aussi important que ça dans notre vie. C'est ce que disent les Français interrogés. Seulement un salarié sur 5 estime aujourd'hui que le travail est très important. Ils étaient 60% en 1990. Alors, en fait, les responsables de cette étude disent on ne dit pas que les gens sont paresseux, sont des feignasses.
C'est ça qui est intéressant.
Mais en fait, ils disent maintenant, les Français veulent que le travail s'adapte à eux et non le contraire. Alors c'est vrai qu'on est aussi dans des sociétés très individualistes où voilà, et donc on est moins attaché à la structure du travail, à l'entreprise comme avant. Tu rentrais à 20 ans, tu finis à 60, tu as passé toute ta vie dans l'entreprise, ça s'est terminé. C'est l'heure du zapping, les gens quittent leur boulot, il y a pas d'attachement, pas de loyauté, et les Français préfèrent avoir davantage de temps libre, même si cela implique de gagner moins d'argent. Ils sont prêts à faire ce sacrifice. Vous le comprenez ça?
Moi,
Bernard
oui.
Zorak est plutôt quand même d'une génération
oui.
où le travail est au cœur de toute la vie.
Moi, je comprends, mais parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur souffrance au travail. En France, la souffrance au travail, le management, le management de terroriser les gens, c'est quand même quelque chose qui n'est pas pris en compte. Le harcèlement et la souffrance au travail. Ça, c'est la première chose. Le Covid est passé par là, évidemment, à obliger les gens à se questionner sur le sens de leur vie, sur le temps qu'ils consacrent pour leur vie, pour leur famille, etc. Ça a modifié les choses. Et du coup, moi, je trouve intéressant qu'on décide de travailler pour travailler dans de bonnes conditions et de travailler avec des gens bienveillants dans des univers. C'est pas le travail qui pose problème. Il y a plein de gens autour de nous qui nous disent c'est pas le travail qui me pose problème. C'est tout ce qu'implique le travail, c'est-à-dire des ordres avec des gens pas sympas, avec des salaires qui nous permettent pas de vivre décemment, avec une liberté qu'on n'a pas. C'est-à-dire qu'on pourrait dire en France on ne manage pas au projet. On manage souvent à la présence, alors qu'aux États-Unis, ils ont super évolué. Le télétravail est venu comme si c'était un ovni, alors qu'il y a plein de pays qui... On n'a pas évolué dans notre façon de vivre le travail. Moi, personnellement, j'aime travailler. Je pense que le travail, c'est la santé. Le travail, ça permet d'être content de soi, de faire des choses intéressantes, passionnantes. Moi, je suis quelqu'un qui travaille toujours. Alors, à la maison, n'importe où, mais en tout cas, je suis toujours en action. Maintenant, j'ai pas envie de travailler dans des univers avec des gens pas sympas, avec des gens malveillants, avec des gens méchants, avec des gens pour qui la productivité va au-delà de l'humanité, etc. Et je pense que c'est ça que les gens rejettent. C'est pas le travail. Et d'ailleurs, l'étude le dit bien. Les gens sont pas paresseux. Ils sont capables de travailler 10 heures dans un jardin. Ils sont capables d'aller donner un coup de main à leurs voisins pour refaire des travaux. Le travail en lui-même ne pose pas de problème aux gens. Ce qui pose un problème aux gens, c'est la façon dont on travaille et la façon dont on a hiérarchisé le travail et la façon dont on n'a pas impliqué les gens dans le collectif du travail. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble, on produit ensemble, on partage ensemble, on vit bien ensemble. Les gens disent quand ils souffrent au travail, mais de toute façon, je m'en fous, le travail, c'est pas ma vie. Si, c'est une partie de ta vie. Donc, ils essayent de se débarrasser d'une souffrance au travail en considérant qu'elle n'est pas leur vie. Or, elle est le prolongement de leur vie, elle fait partie de leur vie. Donc,
ouais, on voit bien qu'en fait, tout ce qui était les années 80, on disait moins de boulot, enfin, moins de temps libre, mais vas-y, bosse,
oui,
gagne,
oui,
réussis,
bien
etc.
Sûr, parce qu'on était sur
tout
le...
Ça, ça a complètement
on
changé.
On était
quoi,
sur la grande, la période de la grande consommation.
Même si je gagne moins, je veux un petit peu plus de temps libre.
On veut pas posséder,
donner du
on veut
sens.
Être aujourd'hui, on ouais, veut, voilà, on veut une ça. Qualité de vie.
Jérôme, t'es d'accord avec toi avec ça, parce que toi tu travailles beaucoup.
Oui, il est d'accord,
d'accord avec lui-même. Ouais. Non mais ouais.
Pas toujours.
Je suis dans un milieu surtout où tu peux pas te permettre d'avoir ce genre de mentalité, quoi, parce que sinon, alors là, tout tombe, quoi. Et moi, je salue l'engagement que peuvent avoir les aides-soignantes, les infirmières, les soignants dans les établissements comme en ville, parce que c'est des professions qui comptent pas leur temps et qui sont tournées vers l'autre.
Enfin, c'est dans ces secteurs-là qu'on voit aussi
c'est embêtant.
Pour autant,
dans nos cabinets, on n'a jamais vu autant de personnes fatiguées, inquiètes, qui subissent mal la violence du quotidien et qui, de par l'incertitude qu'ils ont par rapport à leur avenir, ne misent pas sur la valeur travail.
Voilà.
À une époque, tu misais sur la valeur travail parce que tu avais une envie de développement, tu avais une envie de meilleur. Mmh. Et aujourd'hui, l'inquiétude fait que tu mises plus là-dessus. Et puis à côté de ça, tu as une fatigue générale, probablement en lien avec la Covid, qui fait que les gens sont presque passés à autre chose, quoi. Ils s'engagent plus, ils profitent de la vie, ils cherchent à s'occuper d'eux-mêmes avant de s'occuper des autres. Or, quand tu travailles, tu t'occupes aussi des autres, quoi. Et tu as cette problématique-là, quoi. Je ne cesse de rencontrer des jeunes, et je ne le voyais pas auparavant, entre 20 et 30 ans, qui vont venir pour un arrêt de travail d'un jour, deux jours. On ne le voyait pas auparavant. À la moindre fatigue, on vient te demander un arrêt de travail. Et ça te montre bien que, je ne dis pas que c'est des feignards, attention, loin de moi cette idée-là. Mais je vois que, si tu veux, ils sont...
Il y a une souffrance quelque part.
Il y a une fatigue générale, vraiment. Et les seniors, et je te rejoins sur cette espèce de volonté de changer de boulot tout au cours de la vie, d'être plus attaché comme ça, à rentrer dans une voie et à la garder. Mais les seniors qui, eux, ont construit leur vie, mais eux te disent... Moi, j'en peux plus, quoi. Je suis crevé, j'en peux plus. J'ai envie de m'arrêter. Il y a vraiment une baisse de morale qui est patente, quoi.
Jean-Baptiste, tu le comprends, ça ?
Non, je suis assez en désaccord avec ce que vous avez dit. D'abord, je pense qu'il n'y a plus un entrepreneur aujourd'hui, un dirigeant de boîte, qui s'occupe pas de concilier la vie pro, la vie perso de ses employés. Je pense que toutes les méthodes de management un peu autoritaires, aujourd'hui, ça devient... Il y en a, ça existe encore, mais ça devient de plus en plus marginal et de plus en plus marginalisé.
On a les prémices.
Et les jeunes, quand tu...
On a seulement les prémices, on est au début.
Sincèrement, les jeunes, maintenant, quand tu les embauches, le premier truc qu'ils te demandent, c'est combien de jours de télétravail, comment je concilie... Enfin, c'est devenu obligatoire aujourd'hui de prendre
tant
en compte
mieux,
que
c'est récent,
le jeune salarié, il a envie d'autres choses.
Sauf que tous les boulots peuvent se télétravailler. Hein.
Exactement.
Et dans après, la restauration de bâtiments, tu télétravailles pas.
Moi, je suis en désaccord. Donc sur ce point, et je pense que effectivement, les Français ne sont pas des fainéants. Ils font des efforts pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils font des arbitrages justement pour eux-mêmes. Mais on a probablement un peu collectivement perdu l'engagement pour les autres, pour la collectivité, pour l'esprit, par exemple, corporate, l'esprit d'entreprise. Et le sondage, je le dis bien, il a drastiquement chuté.
Pourquoi?
Et en fait, la vie, bon, évidemment, c'est un effort pour soi-même, et ça, les Français le font, mais c'est aussi un effort pour les autres. C'est un effort, par exemple, la démocratie est un effort.
Un million de bénévoles. Un million de bénévoles.
Et l'entreprise, ça fait partie de la vie en société, et donc faire un effort pour son entreprise, voir que son entreprise prospère, ça devrait être un réflexe assez naturel. Alors évidemment, on était en France dans un monde de grosses boîtes où on restait longtemps, et en fait, on arrivait à acquérir des droits grâce à ces grosses boîtes. Et c'est les régimes spéciaux, c'est ça en fait initialement aussi.
Oui, mais regarde, ça, on est en train de bénévoles. Les gens sont pas feignants. Les gens sont engagés collectivement.
Non, mais les gens sont engagés pour eux-mêmes.
Oui, mais collectivement. Regarde dans les restos du cœur partout. Il y a plus du monde.
Pas chez vous, les artisans, les petits commerçants, etc. Mais... La réflexion que tous vous font, c'est on arrive à trouver personne, quoi. Ils ont ce problème-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté d'aller vers.
Oui, mais regarde, ils les perdent, ils les retrouvent.
Ce qui a radicalement changé aussi, c'est l'envie de réussir et de super bien gagner sa vie. C'est fini, ça. Aujourd'hui, le chiffre
en France,
le dit.
Hein, parce qu'il y a pas un pays au monde qui pense comme ça.
Peut-être,
hein.
Mais en France.
Nous, on a Marine Tondelier, il faudrait l'exporter parce que je pense que.
Deux Français sur trois avant, vous les disiez, OK, j'ai moins de temps libre, mais je gagne mieux ma vie. Et aujourd'hui, ça s'est complètement inversé.
Ouais, parce que.
Tu veux plus de temps libre, même si tu gagnes moins bien ta vie. C'est tout ce paradigme qui a complètement changé.
C'est un discours d'opinion publique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Français qui arbitre. Il y a très peu de Français qui arbitre contre de l'argent supplémentaire. Et d'ailleurs, bien souvent, les revendications, c'est essentiellement pour travailler moins, mais surtout gagner plus, en général.
Surtout un discours de pays protégé, ça.
Et c'est un débat, effectivement, politiquement, on est un des seuls pays au monde qui revendique vouloir se débarrasser des milliardaires, ne pas aimer la richesse, etc., etc.
Oui, oui, mais en même temps, on veut de l'argent pour financer les hôpitaux,
et
etc.
Et on veut, donc, et on veut continuer à financer.
C'est compliqué.
On veut financer.
C'est pas les pauvres qui financent les hôpitaux. C'est vraiment. Pardon, ce débat est débile. Pardon, mais il faut le dire. Ce niveau total. Je pense que ce sont des responsables politiques. À la limite que un citoyen lambda le pense en disant on va prendre aux riches comme ça, ça sera. On va détruire les milliardaires. Mais que ça soit des responsables politiques et notamment la nouvelle chef des écolos, ça dit le niveau quand même. Oui. Parce que, pardon, on est dans un système de redistribution. Le système français, ça, c'est justement la solidarité entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas. Si tous les gens qui ont de l'argent se barrent ou sont détruits, parce que c'est ce qu'ils disent, il faut détruire les milliardaires, ah ben c'est sûr, on restera entre pauvres, mais je sais pas bien comment on va financer les trains pour aller en vacances, financer l'hôpital pour se soigner. Enfin,
c'est un marqueur.
Mais à un moment donné, personne ne dit, parce qu'il y a une espèce de complaisance dans les médias en disant, ah, on écoute, ah bon, alors il faut taxer les milliardaires, c'est génial votre
idée. Ça se diffuse dans l'opinion publique.
Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas payer d'impôts. On peut peut-être même leur faire payer plus d'impôts.
Non, la différence est là, c'est qu'on doit regarder exactement s'ils n'ont pas.
Ils sortent déjà de
la fiscalité.
Bernard Arnault, s'il veut, il peut quitter la France, il ne payera pas d'impôts. Et on sera là à dire, ah ben c'est dommage, on a quand même perdu.
Ce qui est intéressant dans l'étude, c'est de dire que ce n'est pas la paresse qui est mise en avant, c'est la façon dont les gens veulent travailler dans le collectif. Et tu as raison, c'est comment ils vivent.
Non, mais
le
là
travail.
Où Olivier a raison, enfin, le point fondamental, c'est qu'évidemment, enfin, les Français, ils vivent comme ils vivent. Mais il y a quand même beaucoup de partis politiques aujourd'hui qui ont fait de cette rhétorique-là
une idéologie.
Le droit à la paresse.
Enfin, je veux dire, dans l'écologie populiste, politique, d'ailleurs. Entre Sandrine Rousseau et Marine Tondelier, on a quand même des stars de la démagogie. Enfin, ce truc est quand même absolument hallucinant. Et effectivement, il y a une complaisance vis-à-vis de ces prises de position qui sont.
C'est travailler mieux,
à minima naïve. Et à Maxima,
mais pardon, Sandrine Rousseau, son salaire, c'est de l'argent public. S'il n'y a plus personne pour lui payer, comment on fait?
Bien sûr.
Nous sommes avec Lionel qui nous appelle du Vaucluse. Il est chauffeur VTC. Bonjour Lionel.
Bonjour
Lionel. Alors, est-ce que le travail est encore essentiel dans la vie ou pas?
Ah, mais il est tout le temps essentiel. Moi, pour ma part, j'ai été en retraite pendant 3 ans, puisque j'ai eu la chance de bénéficier des carrières longues, donc je suis parti à 60 ans. J'étais cadre supérieur, directeur commercial, j'ai arrêté à 60 ans. Je puis vous dire une chose, c'est que je m'ennuyais au bout de 3 ans, mais d'une façon incroyable. Et donc, j'ai cherché une activité souple qui me permettrait d'avoir des contacts humains, d'avoir... L'argent n'était pas le problème, puisque j'avais une retraite plutôt confortable d'ancien cadre. Mais c'est simplement que le milieu social change complètement quand on est retraité. On n'a plus les mêmes contacts, on n'a plus la même façon de vivre. Et il m'a fallu me resocialiser en faisant cette activité de VTC.
Donc c'est pas le travail qui est le problème, c'est la façon dont on travaille.
Ah, absolument, c'est la façon dont on travaille. Mais c'est surtout que quand vous devenez retraité, vous rentrez dans un monde auquel vous n'êtes absolument pas préparé.
Ce que dit Lionel, c'est super important, c'est que le travail, c'est aussi c'est l'émancipation, parce qu'on gagne un peu d'argent et parce qu'on peut se réaliser, mais c'est aussi la socialisation.
Bien sûr.
Et alors singulièrement en France. Les Américains, ils s'en foutent un peu de socialiser au travail. Pour eux, c'est pas super important. C'est le business d'abord. Ils socialisent à côté.
Mais nous, oui.
Nous, on socialise essentiellement au travail.
Oui, mais d'accord.
Jean-Baptiste, on se rend compte.
Est-ce qu'on est prêt à faire des efforts d'adaptation, des compromis? Parce que travailler avec les autres, forcément, il faut faire des compromis. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on est une société très individualiste. On regarde un peu quand même son bonheur, etc. Et on a du mal à avoir des œuvres collectives dans le boulot. Parce que quand tu bosses avec des gens, tes collègues, tu les as pas forcément choisis. Il faut accepter aussi. Est-ce qu'on a encore, le télétravail où on bosse chacun chez soi et finalement on voit plus personne, je suis pas convaincu que ça va dans le bon sens.
Il y a des boîtes dans lesquelles c'est sympa de travailler, d'autres moins, tu vois, c'est pour ça aussi que la société
bureau partagé, c'est donc c'est le problème, c'est qu'on on entraîne un peu ce côté très individualiste du travail.
Moi, Lionel, donc là post retraite, vous avez quel âge aujourd'hui?
64.
À 64 ans, vous avez repris le travail simplement pour être au contact des gens, c'est ça? C'est... Il n'y a pas de motivation financière du tout?
Je dirais que c'est jamais, ça fait entre guillemets, les voyages se font un peu plus loin maintenant parce que c'est un peu plus de confort, mais ce n'était pas la motivation de base.
Et vous faites maintenant, vous allez faire ça jusqu'à quel âge?
Tant que je pourrais le faire, je dirais qu'aujourd'hui.
Donc l'âge de la retraite.
Comme quoi. J'ai la chance d'habiter dans une région touristique où il y a beaucoup d'hôtels de luxe, beaucoup de choses comme ça. Et je puis vous dire que ça leur fait très plaisir de voir des chauffeurs qui aujourd'hui sont des gens respectueux, bien habillés, qui viennent et qui respectent leur clientèle. Donc c'est un marché aussi dans lequel, je dirais, il y a énormément à faire. Je ne vous cache pas que les taxis du coin m'ont envoyé des messages incendiaires.
Pourquoi alors, en vous disant quoi?
On en manque. On manque de solutions de transport.
Oui, c'est vrai.
Et voilà, vous savez, la France est un pays de privilèges et de castes et tout le monde veut s'asseoir sur son petit privilège. Moi, j'ai vécu le taxi de mon village qui m'a appelé en incendiant comme quoi c'était un scandale et ainsi de suite. On est vraiment un pays archaïque là-dessus. Mmh. Alors que si on permettait justement aux retraités d'avoir justement une transition qui leur permette d'avoir une activité, pour ceux qui veulent rien faire, ils font rien, c'est pas un problème. Mmh. Mais à partir de 60 ans, si on vous dit, eh bien, écoutez, choisissez votre activité, l'entreprise est là pour vous assurer un certain...
Vous avez eu la... Je vous interromps parce que c'est important, vous avez vu dans la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'avec la nouvelle réforme, si elle passait, lorsque l'on prend sa retraite et qu'on reprend un travail, on recapitalise et on a une seconde pension.
Mais ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Ce qui n'était pas le cas et c'est plutôt ça, par contre,
Lionel,
intéressant.
Merci d'avoir été avec nous, cet exemple, mon cher Lionel. Bonne route, soyez prudent, profitez merci. Bien de la vie. Alors, à bientôt, oui. Lionel.
Merci et puis continuez, vous faites un travail super.
Merci, merci. Lionel. Dans un instant, du Vaucluse, on va aller dans le Calvados. Vous voyez tout, c'est le Calvados.
Oui.
Comme
dans
Normandie.
Dans le Nord.
Pas terrible
Normandie.
En géographie.
Oui,
je préfère,
de nous, c'est quoi la préfecture du Calvados?
Quand?
Oui, tu le savais pas.
Si, 14, le Calvados.
On a dit une bêtise la dernière fois. Bayeux, c'est bien dans le Calvados.
Ouais. Ah, non, c'est moi qui avais raison.
Pierrick Olegas m'a engueulé.
Dans un instant, Chris, à Caen, dans le Calvados, banquier, est-ce que le travail est encore essentiel dans sa vie? Il va nous dire ça au 32-16.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Avant de continuer notre discussion sur le travail et de donner la parole à Chris qui nous appelle du Calvados, je vous rappelle qu'RMC vous paye votre facture d'énergie pour l'hiver. Vous m'envoyez facture par SMS au 732-16, facture par SMS au 732-16, bois, gaz, fuel, électricité, quel que soit votre moyen de chauffage. Envoyez facture par SMS au 732-16. Si vous êtes tiré au sort, ce sera pris en charge. C'est Chris qui nous appelle du Calvados. Bonjour Chris.
Bonjour.
Alors, dans quel camp êtes-vous? Est-ce que le travail est encore essentiel, oui ou non?
Alors, moi, je dirais que c'est une question de remettre le travail à sa juste place. C'est pas qu'on n'aime plus le travail. On aime le travail nous apporte quelque chose, mais on n'a plus la même ambition. Alors, pourquoi? Moi, en fait, quand j'avais 20-30 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'étais une pâte à modeler, j'avais de l'ambition, je voulais gravir les échelons, parce que je suis dans une banque, je travaille dans les bureaux administratifs d'une banque. Mon projet c'était devenir chef adjoint et devenir chef. Aujourd'hui, je ne veux surtout plus ça. C'est terminé. Je ne
Pourquoi
veux plus parce que quand vous vous rendez compte avec l'expérience, aujourd'hui j'ai 43 ans, je deviens presque un senior, je deviens donc une pâte à modeler qui devient dure, je deviens plus rigide, on va dire.
Comme Alain, ça.
Voilà. Et vous vous rendez compte que le management, il a vachement évolué, il est devenu harcelant. Tout est piloté. On pilote tout dans la performance. On en oublie les clients. On veut tout piloter, les moindres indicateurs de ceci, de cela. En plus, quand vous êtes manager, vous avez la pression du ce qu'on appelle le N plus 2, le manager de manager. La pression des salariés. Donc, moi,
ça existe encore, hein.
Ah oui, non, mais moi, quand je vois ma chef, elle est derrière ses trois écrans, elle a tous ses tableaux Excel, elle nous flique, elle regarde tous les indicateurs. Franchement, ça fait pas rêver. C'est ça, être manager.
Mais parce qu'elle-même, elle a la pression du dessus aussi, c'est pareil.
Ah oui, elle a la pression du dessus. Mais du coup, elle nous la refourgue.
Voilà.
Ouais,
voilà.
C'est comment on hiérarchise, comment le travail est hiérarchisé, il est plus collectif. C'est plus du management par projet. La souffrance au travail, c'est un sujet tabou. Le harcèlement, pareil, personne n'en parle. Mais... Et du coup, c'est ça qui fait revoir aux salariés, la plupart,
mais
la
façon dont l'organisation au travail, t'es obligé de rien. Le patron qui a envie d'organiser un monde de process, il organise un monde de process.
Oui, mais regarde.
N plus 1, N plus 7, tu passes ton temps dans les tableaux Excel et les process. Oui. Mais personne, d'abord, je pense que c'est assez inefficace. efficace. Et personne n'oblige personne à faire ça.
Non, mais il y a des gens qui restent dans leur travail. Économiquement, ils ne peuvent pas quitter leur travail.
Dans la banque, c'est comme ça, dans la banque ?
Ah, mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire dans les banques.
C'est concurrentiel.
Il y a des actionnaires, il faut des dividendes. Vous mettez, il faut des dividendes. Quels que soient les moyens, il faut des dividendes.
Ah oui, oui. C'est tout. Et puis même les banques mutualistes.
Tu peux faire des résultats sur
oui, mais bien sûr.
Mais pardon,
ça veut dire que vous venez au boulot à reculons ?
Oui, personnellement.
Ah oui, moi, si je viens, c'est que pour mes collègues. C'est tout. En plus, quand vous avez le malheur, quand vous avez des entretiens d'évaluation, alors maintenant, c'est la nouvelle mode, hein, maintenant, on vous marque à la culotte des entretiens d'évaluation tous les mois. C'est plus tous les,
ah bon
c'est plus tous les ans. Ah ben oui, c'est plus tous les ans, parce que maintenant, le personnel administratif, on les traite comme des commerciaux. Vous avez maintenant des suivis. Donc en fait, si vous avez le malheur d'être pas dans les bons indicateurs pour un point de détail, on va foutre en l'air tout le reste. Et quand vous demanderez une augmentation, ah mais non, l'augmentation chez nous, c'est que tous les 8 ans ou tous les 10 ans, et puis vous aurez que 50 euros net par mois. Hein,
mais Chris, pardon, mais vous avez 43 ans, vous arrivez donc à un âge où vous devez manager, ouais. Vous refusez de le faire. Comment vous envisagez votre évolution de carrière en fait ? Et 43 ans, il vous reste quand même quelques années.
Gagner moins, mais travailler dans de meilleures conditions et peut-être de manière plus apaisée.
Oui, mais
et
ça, c'est une fois que tu as dit ça.
C'est des choix que les gens font. Hein.
Alors, deux solutions. Soit je reste dans la banque, mais effectivement, j'évolue sur des métiers de management, mais de ce qu'on appelle des experts. Mais après, encore faut-il que ces métiers soient reconnus, parce que maintenant, on vous met expert de tout, mais on vous reconnaît pas ça sur la fiche de paye. Soit je sors de mon métier de production, où je traite des dossiers en masse, ou soit je change carrément de métier. Effectivement, un métier qui sera peut-être moins bien payé.
Et vous avez réfléchi ?
Eh ben, soit je me mets à mon compte, mais après, encore faut-il trouver une activité qui nous convienne, hein, ou soit j'évolue sur des métiers où mes compétences sont transposables. Ça peut être, par exemple, du social, ça peut être d'autres choses, parce que quand vous êtes banquier, vous accompagnez des clients, vous étudiez leurs projets.
Mais toutes les banques sont pas comme ça, en fait. C'est pas les banques.
Il dit que toutes les banques sont comme ça, même les mutualistes.
Non, pas du tout.
Et Chris, il le dit.
Il y a des banques qui fonctionnent pas comme ça. Le crédit mutuel, 7% d'augmentation. Ben si. Non, mais c'est vrai.
C'est les pires.
Non, c'est mutualiste.
Vous bossez chez qui, vous, Chris?
7% d'augmentation de leurs salariés. Ils ont mis le dividende sociétal en route.
Chez qui bossez-vous?
Il y a des gens qui évoluent, pour garder les salariés, pas tous. Mais ça existe.
D'accord.
Vous me parlez du crédit mutuel parce que j'attends un retour de leur part et effectivement, ils m'ont fait une présentation de leur entreprise qui m'a énormément.
Ah, voilà.
Je raconte pas de bêtises.
Suivez l'exemple de Zora.
Voilà.
Faites un transfert.
On verra ce que ça donnera. Mais voilà. Et aujourd'hui, l'ascenseur social, je peux vous donner un exemple. J'ai postulé à une offre de responsable adjoint en disant, allez, va quand même sur un poste de responsable adjoint, ça t'engage à rien, tu vas pas devenir manager et tout. Et ça permet de faire valoir tes compétences d'expert. À la Banque de France, hein, à Caen, ils m'ont rejeté ma candidature dès le lendemain. Donc je me suis dit, là, c'est une intelligence artificielle qui l'a étudiée, c'est pas possible, parce que maintenant, c'est une nouvelle mode aussi. Hein. Et en fait, j'essaie d'en savoir plus, de les contacter, la DRH. Ah oui, mais non, sur ce type de poste, un profil comme le vôtre, faut quand même savoir que je me suis diplômé à 35 ans d'un brevet professionnel de banque. À 37 ans, j'ai fait un BTS. À 39 ans, j'ai fait un bachelor, donc un niveau licence. Hein. Je suis courageux. Hein.
Ouais, c'est bien, bravo.
Moi, je pense, Chris, vous avez encore de l'ambition. Vous avez de la frustration. Vous avez
vendez
encore
de la drogue ou blanchissez de l'argent. un truc rémunérateur du moment.
Les bons conseils d'Anna Marshall.
Ça vaut pas le coup de se faire prendre, quand même.
Merci, oui, mais Chris. Vous mettez un gros paquet de côté, quoi, mon cher. Pour les années à venir. Merci de cette expérience personnelle, professionnelle, mon cher Chris. Merci d'avoir été avec nous. Mais j'espère que quand même vous arriverez à vous épanouir parce que vous avez 43 ans. C'est encore 20 bonnes années devant vous. Michael, fidèle des GG.
21.
Qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour, Michael.
Bonjour à toute l'équipe.
Michael, restaurateur, qui nous a souvent parlé aussi de sa réussite. Michael, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi le travail est en train de sortir un peu de nos vies, alors?
Non, on va droit dans le mur. De toute façon, en France, oui. Vous voyez bien tout à l'heure avec le débat de ce matin, on veut faire la grève, on veut la retraite, mais pas pendant les vacances. On veut faire, on veut de l'argent, mais on veut pas travailler. Non, mais sérieusement, on continue comme ça, on va droit dans le mur. Ça va finir comme les États-Unis. Il y aura la sécurité sociale, tout ça. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, faut taxer quelque part à un moment. Si personne travaille, il y aura plus rien à taxer. Ce sera tout le monde aura sa mutuelle privée et plus personne n'a envie de bosser. On explique aux gens que tout le monde est des ambitions politiques, hein. Que que quand je dis tout le monde est égaux, c'est pas que tout le monde est égaux, c'est qu'on peut toucher de l'argent et ne rien faire. On propose des revenus universels. Je vais prendre l'exemple de vous deux qui êtes sur le plateau, Alain Marchal et Olivier Truchot. Vous avez une certaine notoriété, vous avez certainement gagné votre vie, mais vous attaquez une émission à 9h du matin, donc vous êtes là peut-être 2h avant. À 17h, vous êtes encore là à la télé. Je m'en suis rendu compte en allant travailler au restaurant. Le matin, je vous écoute au petit déjeuner. Je rentre à ma coupure, vous êtes encore à la télé. Je dis, non, mais ils dorment jamais les deux.
Oh, moi, je suis boivre beaucoup.
Mais je veux dire, c'est que il faut apprendre aux gens la valeur travail. Aujourd'hui, on leur apprend, reste chez toi, t'es assis, t'es payé, t'as rien à faire. Je le dis souvent, moi, dans la restauration. Quand je vois des gamins qui à 18, 19, 20 ans me réclament le chômage, et je vais le redire ce que j'ai déjà dit sur votre plateau, mais moi, les gosses, faut pas leur apprendre le chômage. Faut leur apprendre, tu veux de l'argent, tu travailles. Tu veux te payer un
vous avez ô combien raison. C'est quand même, on se pose une question qui est quand même une question de pays riches et socialisés, quoi.
Voilà,
il y a d'autres pays où les gens tueraient pour avoir un travail. Il y a des gens qui actuellement traversent la Méditerranée et meurent pour aller chercher un travail. Et nous, on se demande si le travail est essentiel dans notre vie. C'est délirant, quoi. C'est délirant. Non, mais on donne tellement d'aide. Et ça doit quand même interpeller les politiques. Parce que c'est le résultat des politiques depuis 30 ans. Où on accompagne, on aide, etc. Et au final, on finit par dégoûter du travail, quoi. On se dit, bon, non, la vie est possible sans travailler.
C'est normal, les politiques ont en moyenne jamais travaillé
de leur vie. Non, mais c'est éminemment scandaleux.
Jean-Luc Mélenchon, 62 ans.
C'est un ancien ministre qui dit ça.
Je sais de quoi je parle. Ouais, j'en ai fréquenté.
Mais tu vois, si on veut donner de l'espoir à ce pays.
Les types qui font de la politique aujourd'hui, majoritairement, ils viennent de générations qui
n'ont jamais été bossés dans une entreprise.
Ils n'ont jamais bossé dans une entreprise. Mais donc, ils ont cumulé des dizaines d'années de mandat électif. Ils vont sortir d'ailleurs avec des retraites.
Mais c'est pire que ça. On a la sensation qu'aujourd'hui, la politique, c'est ce que tu fais quand tu ne peux rien faire à côté. C'est une voie de garage, Michael. C'est terrible, quoi.
On est dans une société, pour reprendre un peu, excusez-moi, vous êtes d'une génération au-dessus de moi, mais on est passé d'une société où on avait des devoirs, où on n'a que des droits, et plus de devoirs en fait.
On est peut-être passé, pour essayer de nuancer quand même, on est peut-être passé d'un excès à un autre. On est quand même, il y a les générations avant les nôtres, se tuent un peu au travail, partaient à la retraite, et on mourait d'ailleurs quelques années après, parce que l'espérance de vie était moins élevée, et puis on faisait moins attention à soi, on fumait, etc. Maintenant, on se posait moins de questions, c'est vrai, on bossait, on choisissait pas forcément son boulot, on passait toute sa vie à faire le même boulot, on se posait pas de questions. Ouais, donc c'était quand même assez excessif. Et peut-être qu'on est passé dans un excès inverse, où on est dans une société du loisir. Ce qui compte, c'est son bien-être personnel. On est dans le coaching de soi-même en permanence. Et forcément, dès qu'il faut faire un effort, dès qu'il faut jouer collectif, dès qu'effectivement, il faut être un peu sur la frustration. Moi, je pense qu'on est une société qui ne sait plus être frustrée, en fait. On veut tout de suite. Et donc,
marche, Olivier.
C'est peut-être pour ça que, Michael, dans la restauration, vous trouvez plus de jeunes voulant bosser.
Ça marche tant que le pays prospère au global.
J'avais 15-20 CV. J'ai eu 5 CV.
C'est aussi une question de la façon dont on a élevé nos enfants, mais je pense qu'il y a une responsabilité aussi parce que le travail, c'est aussi à la maison que tu l'incultes à tes enfants.
Michael, moi,
si tu vois pas tes parents travailler aussi, c'est difficile aussi de s'y mettre. Enfin, je veux dire, il y a aussi des générations de gens qui n'ont pas vu leurs parents travailler, qui étaient au chômage.
Moi, j'ai une anecdote sur ça d'une mère qui m'a engueulé. Son fils voulait arrêter de travailler chez moi. Je dis, très bien, donne-moi une démission. J'ai la mère qui m'a appelé le lendemain. Non, vous allez mettre mon fils au chômage. Je veux qu'il touche le chômage. Je me dis, quand c'est la mère, ça vient de la mère. Comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Je fais non, il veut arrêter, il démissionne.
C'est le profit du système, quoi.
Pour qu'il puisse toucher le chômage. Et le gosse, je le revois un an après, je dis alors, tu recherches toujours du boulot? Ah non, quand j'ai vu par rapport à ce que je touchais actuellement, 19 ans, gosse. Quand je touche actuellement, c'est pas intéressant de retravailler. À 19 ans, c'est le genre de discours.
Non, mais après, il y a deux choses. Il y a quelque chose qui est mondial actuellement, c'est cette sortie du Covid qui fait qu'on voit des gens plus fatigués avec moins de volonté, ça oui. Mais après, cette espèce de penser de le travail est-il encore essentiel? Si on compare des pays à niveau économique égaux, on va pas retrouver la même chose en Angleterre, aux USA, en Italie qu'en France, quoi.
C'est quand même aussi
très franco-français, ce truc-là.
États-Unis,
en post-Covid, mais tu as quand même une volonté entrepreneuriale qui n'existe pas ici.
Merci, Michael, d'avoir été avec nous. Et je vous dis à bientôt, Michael. À bientôt dans les GG. Merci, Michael. Alors, le travail est-il encore essentiel dans votre vie? Oui ou non? Regardez. 50-50.
Il y a de l'espoir.
49-3, je sais pas s'il y a de l'espoir. 49-3.
Majoritairement, c'est le nom quand même.
50,7.
Mais non, mais le 50, mais oui, c'est à 49-3, t'as vu? Donc.
Ah oui, c'est pas mal, hein. Alors, pas fait exprès, hein.
Tout à l'heure, le GG 7 et match à 11h20. Est-ce qu'on doit obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? Ce sont des députés qui ont fait une proposition de loi allant dans ce sens. On a une équipe, oui, Jean-Baptiste et Zora, une équipe non avec le docteur Marty et Olivier Truchot. On en parlera tout à l'heure à 11h20. Et pas de à vous de choisir aujourd'hui parce que c'est nous
qui avons choisi de vous parler de Orpea, le scandale des maisons de retraite. Un an après, visiblement, pas grand-chose n'a changé. Et comme c'est notre grande gueule, Sarah Salman, qui est avocate des familles dans le dossier Orpea, on aura un témoignage, justement, tout à l'heure encore, d'une famille qui attendait avec espoir que les choses changent. Vous l'écouterez en direct. Allez, dans un instant, les indiscrets GG avec le service politique d'RMC et puis le quiz des grandes gueules.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, Jean-Baptiste Djebari, Jérôme Marty, Zor Habitant, voilà le trio de grandes gueules qui est avec nous et avec vous. Vous réagissez au 32-16, bien sûr. Quelle heure est-il? Il est 10h41, on dit aussi 11h-20 et c'est l'heure des indiscrets.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Les indiscrets du service politique d'RMC avec Cyprien Pézeril. Bonjour.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Vous nous racontez ce matin que certains écologistes sont de plus en plus sensibles aux arguments des pro-nucléaires.
Oui, cette énergie jusqu'alors bannie par les écologistes. Mais désormais, on doit entendre les aspirations de la société sur le nucléaire. Voilà ce que me confie un député écolo qui a bien remarqué que l'opinion publique est de plus en plus favorable à son utilisation. D'ailleurs, les sondages le disent. Alors en interne, certains tentent de faire pression sur le parti, notamment des jeunes militants. Ils ciblent notamment la Commission Énergie d'Europe Écologie Les Verts. D'autres inondent les boîtes mail des cadres et des adhérents avec des argumentaires détaillés. Chez nous, il y a les mêmes lobbies que dans le reste de la société, reconnaît par exemple un parlementaire. Un autre élu est même persuadé que la ligne anti-nucléaire n'est plus la bonne stratégie. Elle aurait, selon lui, fait perdre des voix aux écolos pendant la dernière présidentielle. Alors il l'assure, si j'étais au pouvoir, je vous promets, je n'appuierais pas sur un bouton pour éteindre toutes les centrales d'un coup.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, les écologistes défendent la construction des centrales nucléaires, alors?
Oh non, on n'en est pas encore là, hein. C'est pas encore la ligne officielle. Cet après-midi, par exemple, le Sénat va voter une loi sur le sujet et les sénateurs écolos seront contre. Mais quand même, il y a bel et bien une offensive favorable à l'énergie nucléaire. La nouvelle direction du parti, conduite par Marine Tondelier, l'a bien compris. Alors elle serre la vis. Plusieurs réunions se sont tenues ces dernières semaines pour rappeler la ligne officielle anti-nucléaire. Une lettre de cadrage vient même d'être rédigée. On doit gagner la bataille culturelle, reconnaît Marine Tondelier en privé. On n'a pas assez transmis le combat, ajoute un de ses proches. Un plan de communication est même prêt sur le sujet à être diffusé, mais pour l'instant il reste dans les cartons parce que la bataille contre la réforme des retraites a pris le dessus.
Donc ça veut dire que Marine Tondelier, la nouvelle patronne des Verts, a identifié deux cibles pour gagner la bataille culturelle, alors?
Oui, il y a deux cibles, je vais en parler il y a un instant. D'abord les étudiants, en particulier les étudiants d'école d'ingénieurs, ils sont très organisés pour tenter de faire changer de position le parti. Et puis surtout, l'autre cible, c'est celui que certains appellent le gourou, alias Jean-Marc Jancovici, expert énergie, universitaire écolo, mais pro-nucléaire et dont les interviews cartonnent, tout comme ses vidéos sur Internet. Marine Tondelier insiste même pour débattre avec lui à la télé ou à la radio, sans succès pour l'instant. Et puis d'ailleurs, il va y avoir des nouvelles cibles encore pour Marine Tondelier, parce que aujourd'hui,
à mon avis, elle tombe en première ronde.
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 11 000 adhérents chez les écolos, mais elle veut 1 million de sympathisants. Donc forcément, s'il y a 1 million de sympathisants, si l'objectif est atteint, il y aura sans doute dans l'eau, évidemment, des milliers de personnes pro-nucléaires.
Mais plus tard que jamais, rappelons quand même que Yannick Jadot, donc candidat écolo à l'ancienne présidentielle, a fait toute sa carrière chez Greenpeace et était...
Contre le nucléaire.
Contre le nucléaire, a fait toute sa carrière contre le nucléaire et a participé à cette faillite politique qui a été la stratégie anti-nucléaire française, éminemment relayé par l'écologie politique. Ça devrait les faire réfléchir quand même.
Bah, ils changent.
Non, mais tout fout le camp, quoi. Maintenant, les écolos sont pro-nucléaire. Bientôt, ils vont être contre les éoliennes. Tu vas voir.
On y arrive. La phase
petit
d'après.
À petit. Non, mais c'est la phase d'après. Voilà, on y arrive. On y arrive.
Ils ont vraiment plus d'électeurs.
Ils ont été rattrapés par principe de réalité, tout simplement.
Voilà,
de la crise. La réalité a rattrapé l'idéologie.
Non, mais surtout, l'escroquerie est aujourd'hui en plein jour, quoi. C'est-à-dire que ces gens qui ont fondé un parti pour essayer de grappiller des places au sein de la politique ne sont pas plus écolos que vous et moi, quoi. S'ils étaient vraiment écolos, je veux dire, ils auraient défendu les solutions qui fonctionnent. Oui, à la place de ça, ils se sont radicalisés en quelque sorte au sein de l'écologie. Mais en fait, ils sont pas plus écologistes que vous et moi.
Oui,
quoi.
Mais historiquement, c'est pas vrai, parce qu'historiquement, le mouvement écolo s'est fait contre le nucléaire. Souviens-toi des grandes mobilisations des années 70. C'était contre le nucléaire. Tu étais écologiste, tu étais avant tout contre le nucléaire.
Les années 70, Olivier, on est en 2022.
Et en plus, ils ont
52
été
ans. Ils ont non, mais il s'est passé 52 ans.
Non, mais ils ont été donc, sous l'influence des écologistes.
Tu peux aussi progresser,
allemands,
quoi.
Des verts allemands. C'est les verts, pardon, mais les verts allemands, avec Madame Merkel, ils ont défendu une politique anti-nucléaire.
Ils ont mis des centrales à charbon à la place. Ils sont écologistes,
ce sont ces mêmes écologistes qui maintenant se rassemblent et protestent contre l'ouverture
de la plus grande mine à charbon en Allemagne, mais il faut faire face à l'énergie d'approvisionnement. Merci, monsieur Pézril.
Merci.
Laissez votre place à monsieur Louis Gerbier, s'il vous plaît.
Oh, monsieur Louis Gerbier.
Bah, tiens, il arrive. Est-ce que.
T'as vu le jingle, il est sympa là.
Ouais. C'est l'heure du quiz.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Monsieur Louis.
Bonjour à tous, j'ai ramené ça. Parce que je suis de nouveau malade.
Et voilà. Faut que tu expliques ce que c'est, parce que les gens qui nous écoutent,
c'est vrai. Alors, pas. C'est le retour de notre petit canapé mouchoir.
Pour ceux qui sont devant RMC Story, je le montre à l'image. Pour ceux qui sont à écouter la radio RMC, c'est une auditrice qui nous a envoyé une housse en forme de canapé qui habille les boîtes de mouchoirs en papier.
Beau. C'est très beau. Hein.
C'est très mignon.
Et je peux vous dire qu'elle trône sur le bureau de Louis et d'Anaïs. Et elle ne bouge pas.
Bourrée de virus.
Elle fait aussi des slips.
Oui, t'as un canapé à virus, quoi.
Non, mais c'est mon meilleur
ami. Est-ce qu'on peut voir les slips qu'elle envoie à Louis Gerbier sur les mêmes motifs?
C'est des très très beaux slips. L'arrêt sur le côté pour Jean-Baptiste. Enfin, au milieu, je veux dire. Comme d'habitude, à chaque fois, tu me fais une remarque.
Ah oui, bien sûr. Je ne pensais pas qu'on parlait d'adresse ce matin.
Mais on enchaîne.
Bon, allez, on commence le quiz actuel.
C'est une discussion qui est régulière.
En question de Ray, Jean-Baptiste, il est. Non, moi, je n'y connais rien. C'est Louis l'expert.
Il y a toujours.
En parlant voiture thermique, alors, avec un conducteur de voiture électrique et le chairman d'Opium, c'est risqué. Mais ce week-end, c'était le rallye WRC Monte Carlo.
Ça, c'est pas trop électrique, ça. Non,
ça, c'est pas électrique.
Remporté pour la 9e fois par Sébastien Ogier, notre Français, un record. Mais qu'a-t-on aperçu grâce à la caméra embarquée du pilote
un
grec?
Un couple qui faisait l'amour.
Absolument.
Bravo,
bien joué,
Zora.
Bravo.
Dans la caméra embarquée, nous avons assisté à un coït. Hop, on peut le voir
fugace,
sur RMC
quand même, hein.
Story. Voilà, hop, petite image arrêtée. Voilà,
ils sont trois,
hein. Sur
il y a
les chevilles
qui regardent ou qui filment. Hein.
Et il y a surtout plusieurs personnes juste à côté qui filment. Donc
alors, Non, moi je pense que c'est des mecs qui font une vanne.
Moi je pense aussi.
Je pense que c'est des gars qui disent de toute façon, comme maintenant toutes les voitures ont des caméras embarquées.
Quand même que...
Et parce que t'as des gens sur les côtés, attendent qu'ils passent et ils sont en position.
La doudoune bleue d'Alain Marchal. Il y a un sujet.
Ou sur le côté qui filme.
Pourquoi t'as balancé? Non, mais attends, Jean-Baptiste.
C'est un film, c'est un film porno, moi je vous dis.
Oui, c'est un film porno, je pense.
Il se sert du décor naturel et du rallye.
Et du rallye.
Je pensais que c'était pour la blague.
Sur le rallye, ça va s'appeler.
Monte Carlo.
Vrombissement à Monte Carlo.
Avec un gars qui filme.
Non, parce qu'il faut savoir qu'en rallye, c'est assez courant de montrer ses fesses. Oui, parce
je sais pas, je connais pas.
Non, on continue.
Monte Carlo, c'est fou.
Louis,
on voit pas les mêmes choses.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est ta vie. Écoute,
j'adore le sport mécanique.
Tu sais, quand tu grandis à Châteauroux,
t'as un petit jardin secret, Louis. Je comprends.
À part montrer tes fesses le vendredi soir sur la voie publique.
Non, mais parce que vous faites pas ça, vous. À Moscou, on part en Russie. Quelle mésaventure est arrivée à une patiente venue simplement se faire opérer de l'épaule?
C'est sans rapport avec le lien.
Elle est tombée sur le docteur Marty.
C'est à partir de ce moment que tout est parti en vrille.
Tout a basculé.
Et ben, figurez-vous, elle a pris feu sur la table d'opération.
Ah oui, voilà, c'est
non.
Ça. Oui, oui.
Tu l'avais vu, Zora?
Oui, je l'ai vu, ouais.
Et ben, en fait, elle a été brûlée au cou, au dos, à la poitrine et à l'épaule. Quelle horreur. Le chirurgien a été brûlé. Il y a eu un court-circuit dans la zone du champ opératoire. Et
c'est possible, ça?
Comment ça se passe, ça, Jérôme?
Ça peut arriver. Avec les bistouris électriques notamment.
Les bistouris électriques.
Là, faut le faire quand même.
Tu peux avoir effectivement des lésions de brûlure, mais pas à l'onde de ce qu'il raconte quand même. Là, on est sur.
Ça a cramé là.
Elle a rien senti.
Alors, je pense qu'elle a rien senti. Ils ont brûlé, mais il y a pas eu de mort, il y a pas eu de. Voilà, ils ont. J'espère qu'ils avaient un extincteur pas loin. Enfin bref, ça c'est pas trop mal fini, mais voilà. Tu arrives pour une épaule, tu repars.
Cramé.
Tu repars cramé. À Châteauroux, quelqu'un était arrivé pour une appendicite. Ouais. Il est reparti les pieds devant. Voilà. N'allez jamais vous faire soigner à l'hôpital. Le député Seiji Kihara au Japon. Hop.
On voyage. Aujourd'hui,
ancien ministre des Transports. Moi, j'ai dit
Je suis ravi. C'est mon meilleur moment. J'adore cette séquence.
Il a été critiqué par de nombreux internautes et par sa propre mère pour son attitude jugée impolie au pays du soleil levant. Mais quelle était cette attitude?
Il a mis les mains dans les poches.
Oui.
Bravo, Jérôme. Il a été filmé le 13 janvier à avoir mis les mains dans les poches. Il a dû présenter ses excuses.
On est loin de tout ça, nous.
Ouais. Ah. Il a même précisé que sa mère avait dit avoir honte de lui à cause de cette attitude.
Nous, on a des députés avec des écharpes qui montent sur des estrades pour dire des gros mots.
Nous, on a surtout les députés qui mettent la main dans les poches des autres.
Oui, aussi. Bravo.
Moi, je peux te dire qu'une fois au Japon, j'ai oublié de faire la queue en bon français et que je me suis pris un coup de journal par un vieux japonais. Du coup, ça m'a vite rectifié.
Hein. Ouais, t'as calmé.
Et je me suis mis derrière la queue, j'ai fait ma queue sans pipémo.
Et moi, au Japon, je suis sorti d'un magasin pour manger sur la voie publique une glace. J'ai été rattrapé et ramené dans la boutique pour manger ma glace parce que sauf à des endroits qui sont désignés. Non, tu ne manges pas sur la voie publique là où j'étais. Tu restes dans le magasin.
Et Louis a été mis en prison pour s'arrêter au milieu. Donc, là-bas est pénal. Non,
j'allais dire, et moi,
là-bas, c'est pénal. Ouais,
et alors, pour finir, on reprend le fil du clash de Bruno Poncet parce que après le droit de réponse, il y a le droit de réponse du droit de réponse. Et donc, le Moscato Show, il nous aurait répondu à Bruno et à nous.
Je pensais déjà, je savais pas qu'ils écoutaient, parce que je pensais qu'ils écoutaient que des trucs, tu vois, genre, je sais pas, moi, genre, oui, à la télé, trucs comme ça, mais bon, il a raison.
D'après toi,
on écoute ces trucs à notre niveau, c'est-à-dire les grandes gueules.
Voilà.
Les grandes gueules,
mais c'est pas notre niveau. Non, mais c'est vrai, t'as raison, Pierrot, il pense sûrement qu'il fait des missions intellectuelles.
Oui, mais
c'est ça, complètement. Là, fallait nous le dire que c'était de haute volée, fallait nous le dire que c'était missions intellectuelles.
Parce que là, on est quand même en train de se faire charrier par une équipe qui écrit papa avec 3 P. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le vis pas très bien. Et puis, au royaume du Moscalandre, on tacte toujours en deux temps. On écoute.
Où ils en sont toujours
au niveau des podcasts. Dans ton rétro, Vincent, dans le rétro, je regarde le.
Oui, mais le problème, c'est que j'avais au début un rétro de mobilette, maintenant il a fallu que j'achète un rétro de caravane pour les voir derrière, parce que je ne les vois plus.
Voilà, et rendez-vous au chiffre du 1er février, Vincent.
Voilà. Ah, d'accord.
Sans transition.
Par contre, le jour où, si par malheur, il passe devant, on va souffrir. Hein.
Jamais il passe pour nous. Est-ce que vous n'avez jamais, ça n'arrivera jamais, Eric.
Ça n'arrivera jamais, tu as entendu?
Oui, je les trouve pas du tout sereins.
Non. Hein? Moi, je sens la tremblote.
Vivement le 1er février.
Déjà, on comprend rien à ce qu'ils racontent. Je suis surpris qu'il y a peut-être que les gens podcastent pour essayer de comprendre.
C'est ça.
Ils ne comprennent pas en direct. Donc, tu réécoutes
trois fois.
Pour essayer de comprendre.
Est-ce que c'est sous-titré? Est-ce que c'est possible de sous-titrer? Peut-être, non?
C'est trop compliqué.
Non, parce que même le sous-titreur n'y arriverait pas. Donc, c'est pas possible.
Il faut faire appel à la famille Champollion ils savent pas qui est Champollion non plus.
Non.
C'est pas un genre de
technique. En tout cas, le jour où on les dépasse, j'ai appelé Carlos Ghosn, j'ai le contact, on réserve le château de Versailles, ça va y aller.
Déguisé ou pas?
Ah oui. Déguisé en sanglier, justement.
Merci, monsieur Louis Herbier. La suite des réjouissances. Oui, bien sûr, n'oubliez pas les factures que RMC prend en charge, vos factures d'énergie pour l'hiver. Que ce soit le bois, le gaz, le fioul, l'électricité, vous envoyez facture par SMS au 732-16. Facture par SMS au 732-16, c'est limité à 2 SMS, 75 centimes d'euros le SMS, l'envoi. La suite des réjouissances dans les GG avec Jean-Baptiste Gébari, avec Jérôme Marty, avec Zora Bitton, tout à l'heure à 11h20. Le GG7 et match, doit-on obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? Le débat revient régulièrement, mais là, il prend une autre tournure parce qu'on a une proposition de loi qui a été déposée par une quarantaine de députés. Ils disent que c'est plus possible. Voilà, les médecins, ils ne peuvent pas s'affranchir de règles qu'on applique notamment aux pharmaciens. Donc, là où on manque de médecins, il faut les obliger à s'installer. Alors, oui pour Jean-Baptiste Djebari et Zora Bitton, non pour le docteur Marty, bien
évidemment.
Sûr, et Olivier Truchot.
Moi, je me mets avec docteur Marty parce qu'il y a des boîtes de Doliprane. Donc, il m'a promis du Doliprane.
Et puis,
l'amoxicilline, je te donne raison aussi.
Souvenez-vous, il y a un an, on l'avait reçu dans les GG, dans les Grandes Gueules, sortait le livre du journaliste Victor Castanet, Les Fossoyeurs, sur la maltraitance institutionnalisée dans le groupe Orpea, le groupe d'EHPAD, au nom de la rationalisation financière. Un an après, il sort une nouvelle édition de son livre, enrichi de témoignages supplémentaires. Parmi les avocats des familles des maltraités, on a Sarah Salman et on a justement un témoignage dans un instant. C'est Bernard qui est le fils d'une victime et il viendra raconter ce qui est arrivé à sa famille. Et vous pouvez d'ores et déjà vous aussi venir nous dire comment ça se passe dans l'EHPAD de votre grand-mère, de votre grand-père, de votre papa, de votre maman au 32-16. Là, tout de suite avec les GG.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.